Je vais tout de suite donc ouvrir le débat. Donc les discussions sont ouvertes. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, je vous en prie.
J'avais une question à vous poser sur ce qui est entendu comme formation. Vous disiez par exemple que les échanges internationaux étaient développés comme une nécessité pour les parties des sociétés chiffrées, etc., des politiques. Qu'est-ce qui était reconnu comme des formations? Est-ce que c'est l'inscription à une formation qui donne lieu à l'obtention d'un diplôme qui est assurément reconnu comme une mobilité, ou par exemple une simple université d'été peut être reconnue? Qu'est-ce qui s'appelle formation?
Oui, en fait, cette question, ça commence à être posée à partir d'Erasmus+, qui date depuis le 1er janvier 2015, donc c'est tout à fait récent. Et je peux vous donner un exemple de mon expérience professionnelle. Moi, je ne suis pas tellement intéressé sur la coopération avec les entreprises, mais je suis tout à fait intéressé sur la coopération avec les ONG. Alors, moi, dans le cadre, il y avait auparavant une activité qui s'appelait Erasmus Placement, où on pouvait envoyer des étudiants faire un stage de 3 mois ou 6 mois, ça dépendait, dans une ONG. Alors, moi, j'ai passé un accord avec une ONG à Paris. Donc, c'était des étudiants, plutôt des étudiantes, parce que chez nous, c'est 90% des étudiants. Et donc, elle partait de Patras, arrivait à Paris, travaillait dans le cadre d'une ONG, préparait des projets qui concernaient l'Afrique. Et donc, pendant l'été, elles étaient en Afrique, travaillaient pour construire des bibliothèques ou faire une salle informatique ou des activités diverses, de toute façon. Alors, là, elle revenait avec une attestation. Ce qui, moi, je trouve bien dommage, parce que, à mon avis, ils avaient appris beaucoup plus de choses qui méritaient d'être validées, parce qu'ils travaillaient dans une organisation non gouvernementale, au niveau international, préparer des projets, et puis aller sur place pour mettre en route les projets, c'est une expérience formidable. Il m'arrive encore avec une attestation tout bête. Vous faites quoi? Alors, quelle est la logique maintenant qui m'intéresse beaucoup? C'est comment on va faire pour cadrer mieux et donner des ICTS pour cette période de formation. Ce qui n'est pas évident du tout. Parce que si c'est 3 mois, ça doit être nécessairement 15 ICTS, parce qu'un semestre, c'est 30. Mais il faut déterminer les activités, ce qui est très bête, parce qu'en fait, on détruit la logique d'une telle activité. Mais on ne peut pas faire autrement, c'est comme ça le cadre, donc il faut découper à des compétences. Et je vais le...
Si on peut l'intégrer dans le diplôme,
voilà.
Si on peut le mettre en supplément tout du diplôme, on peut
oui,
aussi,
oui,
alors
ça
à
c'est...
ce moment-là, avoir
oui.
la validation.
Là, dans le supplément au diplôme, oui, c'est possible. Mais pour donner des ICTS, ce n'est pas possible. Et donc, voilà, la question aujourd'hui, c'est comment on va standardiser cette possibilité. Parce que sinon, on ne peut pas attribuer des ICTS. Mais c'est la même logique pour les entreprises. Là, c'est un autre monde que moi, je ne touche pas.
C'est un peu une contradiction qu'a rencontrée la formation des universités au XVIe et au XVIe siècle, parce que les voilà, universités n'étaient pas nationales. Les universités étaient de la chrétienté. Le débat sur les universaux, commencé en Écosse, s'est poursuivi au sud de l'Italie avec les condamnations qui s'en sont suivies. L'université était internationale, elle était chrétienne. À un certain moment, le roi a estimé que pour donner, il fallait créer un diplôme qui était la licence, l'autorisation d'enseigner, licentia docendi. Alors, les universités ont cédé parce qu'il fallait bien autoriser les gens. C'était une autorisation de morale, ils ont associé un examen. Mais ça ne dépendait pas de l'État non plus, hein, cette université était indépendante. Donc, si vous voulez, on se trouve dans les contradictions que vous visez, que vous analysez, dans les mêmes contradictions qui se sont toujours trouvées dans le système d'enseignement supérieur, et avec des contradictions propres à chaque pays, si vous voulez, mais c'est bien enterré, ça a été international bien antérieurement. Quant au diplôme de compétences, eh bien justement, il faut quand même se rappeler que les diplômes, et ça c'est très bien expliqué par Durkheim dans son magnifique ouvrage sur l'évolution pédagogique, il dit en France, mais en fait c'est pas en France, ça, c'était un cours, il parle de tous les pays du monde, puisque ça concernait simultanément tous les pays du monde, avant les ruptures qui ont été provoquées par le protestantisme et les innovations des jésuites. Bon, eh bien, qu'est-ce que c'était que les diplômes? C'était la reprise d'un système qui existait pratiquement partout, de corporation. Et alors on était maître, on avait une maîtrise, on était maître parce qu'on avait travaillé dans une entreprise, on passait devant l'ensemble des compagnons un certificat et on obtenait ce diplôme. Donc c'est nouveau si vous voulez, mais pas tant que ça quoi. Voilà. Et donc l'université, c'est ce que je voulais dire. Et puis je voudrais dire aussi qu'il ne faudrait non plus pas trop exagérer l'éloge des systèmes étatiques que nous connaissons, parce que par exemple nous avons en France, puisque vous disiez pourquoi on a autant de jeunes filles, etc., nous avons un système de numerus clausus, aussi bien pour recevoir les élèves dans les grandes écoles, qui sont des garanties d'emploi absolument absolues qu'on peut voir avec toutes les statistiques possibles, et puis il y a ce qui, à mon avis, est un scandale pour le vieil universitaire que je suis, le numerus clausus que mes collègues médecins ont mis pour empêcher les gens de devenir médecins, de sorte qu'en France, on est amené à faire venir pour se soigner des médecins de pays qui auraient bien besoin de garder leur propre médecin. Et voilà. Alors, les systèmes d'État, bon, pour la France en tout cas, c'est pas génial non plus. Alors donc, l'Europe est devant des contradictions. Nous avons eu nos contradictions, nous avons nos contradictions. Espérons qu'en Europe, on les règle pacifiquement, et bien, peut-être en mettant un peu de néolibéral, parce que, dans le fond, c'est absurde aussi de faire des systèmes qui ne servent à rien. De donner des formalités. Non, mais je veux dire, dans Gary Becker, il est marxiste. Il n'y a pas de différence entre Gary Becker et Marx sur la qualification. Le temps de travail, s'il est bien conçu, apporte de la qualification et donc de la productivité. C'est la thèse de Gary Becker, largement validée par toutes les analyses empiriques sur la productivité horaire. Je vous signale que la France a le record de la productivité horaire. Oui, en comparant, alors on ne fait pas souvent des comparaisons internationales, mais celle-là, on est pas mal. Et d'autre part, Marx dit aussi que la force de travail, la qualification de la force de travail ajoute de la production, de la productivité. C'est une thèse parfaitement vérifiable, quoi. Donc, on ne peut pas non plus dire on veut de la productivité, oui, il en faut, parce que si on fait des diplômes qui servent vraiment à rien, c'est quand même pas la peine. Et de toute façon, les gens s'en aperçoivent et ne vont pas suivre les cours, ne vont pas suivre ces diplômes-là. Voilà.
Alors, on va peut-être rassembler les questions, puis après.
Je m'appelle Raymond Mattei, j'étais responsable administratif de la formation continue de l'Université de Provence et je donne un bref aperçu de mes interventions de longue date dans le domaine de la formation tout au long de la vie en Europe. En 2004, j'avais rédigé une note comparative sur les 15 pays sur la formation continue dans les pays européens, dans les 15 à cette époque, et j'en extrais les meilleures pratiques en prenant trois exemples sur le banc. Ce serait trop long. Le Danemark. La formation et l'éducation tout au long de la vie est une tradition danoise. Le niveau de formation continue est très élevé. L'indemnité de formation pour les demandeurs d'emploi est très attractive. On peut dire qu'ils sont sur le chemin d'une certaine sécurité d'emploi et de formation. L'Italie, les 150 heures, c'est de la culture générale pour les ouvriers et employés. À noter que cette expérience des 150 heures, après un voyage à Turin organisé par l'Université de Grenoble, auquel j'ai participé, a aidé à la mise en place d'un stage de formation continue assez restreint qui est devenu un DU, puis un DSS, puis un master, puis un doctorat d'ergologie. Et ce master est dupliqué maintenant à l'université de Tlemcen en Algérie et dans pas mal d'universités brésiliennes. Troisième exemple, la France. Alors, le fleuron de la formation continue, c'est le congé individuel de formation. Les deux lois, Jacques Delors de 1971 et Marcel Ridoux de 1984. Sur la formation professionnelle continue en France, vous pouvez vous reporter à un article que j'ai rédigé fin 2013 dans une revue d'économie. Le Fonds social européen a joué un rôle très important pour certains pays. L'Université de Provence en a même bénéficié pour la formation des femmes. Pour les autres pays qui entraient dans l'Union européenne à cette époque, j'ai pris une autre forme, plus pragmatique. En 2004, un séminaire européen a été organisé à l'Université parisienne de Diderot. C'était sur la qualité. Les quatre collègues de l'Université de Cracovie m'ont interviewé sur la façon de construire un service de formation continue universitaire. Ils m'ont d'ailleurs invité à venir les voir ultérieurement. Il y avait aussi la présence très forte d'ingénieurs d'une faculté de sciences de Roumanie. Ils étaient très chaleureux, attentifs et offensifs. Sur la qualité, nous avons eu la présentation du programme CAF, mis au point par les ministères européens de la fonction publique. L'Université de Calgary a été la première à la mettre en œuvre. Bon, tout cela est porteur de beaucoup de positivité. L'Europe est bien un bon maillon à saisir.
Sylvie, après Magali.
Alors, rapidement, parce qu'effectivement, nous devons sortir en obstacle. Je voulais revenir sur la question de la grande question de l'autonomisation de l'université et ce que ça renvoie aussi. Sur la mission de service public de l'université et la part de l'État dans tout ça. Il y a, semble-t-il, un acteur très important aujourd'hui, c'est celui donc, des banques européennes d'investissement qui participent pleinement à la mise en place de cette autonomie de l'université. Et effectivement, cette autonomie de l'université qui se base sur les frais d'inscription des étudiants, etc., sur un partenariat avec des entreprises, mais surtout, me semble-t-il, cette autonomie, elle se base surtout sur la possibilité pour l'université d'avoir maintenant un prêt directement auprès des banques d'investissement, de la banque d'investissement européenne. Or, ce prêt, et c'est là qu'on revient à toute ambiguïté d'une forme de libéralisation de l'État, etc., ce prêt se fait et concéder, sauf si et seulement si l'État se porte garant de la dite université. Donc c'est toute ambiguïté. La question que moi je. Donc l'impossibilité aux pays tiers, par exemple, aux universités des pays tiers, d'avoir un prêt auprès de cette banque, qu'elle soit européenne d'investissement ou de la banque mondiale, dans la mesure où l'État ne peut pas se porter garant de ce prêt. Voilà, donc. La question que je me posais, c'est avec, au sein même de l'Europe, est-ce qu'il existe un déséquilibre, je pense à le cas de la Grèce, qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, l'État peut se porter garant et donc autoriser des universités à avoir ce prêt qui garantirait leur autonomie, enfin, une forme d'autonomie Donc la question, c'est cette question de l'État qui se porte garant, tout de même, garant de l'université, donc l'autonomie relative de l'université. Et l'autre question que je posais aussi à travers ça, c'est, tu parlais des frais d'inscription des étudiants, c'est toute la question de la dette sociale des étudiants, des familles, qui, avant même d'avoir terminé leurs études, se retrouvent avec des prêts et des dettes déjà remboursées. Donc ça pose aussi la définition du futur travailleur citoyen européen. Hein. La définition de ce futur travailleur citoyen qui est déjà en état avant même d'être en état.
On prend une autre question et après tu
D'accord.
Magali.
Donc moi j'ai essayé de faire court aussi. Je remercie, c'est une très belle synthèse des politiques, des actions publiques, etc. Des objectifs chiffrés, on voit bien que les objectifs de la Commission européenne sont toujours très chiffrés. Alors je voudrais rassurer un petit peu les étudiants, parce que je pense qu'on aurait fait assez peu. Mais on est très loin, par exemple, en ce qui concerne la mobilité, que je connais un peu en particulier, disons, on est très loin des objectifs. Des objectifs, de toute façon, c'était à 10%, on n'est toujours pas à 5% de l'ensemble des inscrits d'enseignement supérieur. Aujourd'hui, c'est à 20%, mais on est très, très loin de ces chiffres. Après, je voudrais aussi revenir, mais je pense qu'on en discutera. Sur la question entre, vous avez dit qu'il y a des études qui démontrent que avoir une expérience de mobilité est positive ou amène à une meilleure insertion. Moi, je connais des études qui ne démontrent pas forcément parce qu'il est hyper, c'est extrêmement compliqué en fait de savoir ce qui, en fait, lorsque on constate par exemple qu'une personne avec une période de mobilité a une insertion professionnelle plus facile. Ce qui est du domaine de l'origine sociale, est-ce que c'est parce que les gens qui partent en Erasmus sont en moyenne d'origine sociale plus aidée, etc. Puisqu'on sait aussi que les gens qui, les institutions qui proposent le plus de séjours de mobilité sont aussi les institutions les plus sélectives, etc. Donc, un effet établissement, un effet institution, etc. Donc, ce n'est pas forcément dans toutes les études, là je reviens d'un colloque de Transnational Academy Mobilité, qui essayait de montrer également que, par exemple, le fait d'être dans un pays où il y a beaucoup de multinationales aider à l'insertion des personnes mobiles, mais les pays comme l'Italie ou, je suppose, la Grèce, on ne connaît pas très bien, mais pour dire, des pays où il y a moins de multinationales, la mobilité, l'étude, engendre plutôt la mobilité professionnelle, donc ils vont être amenés à chercher du travail ailleurs puisque les petites entreprises n'embauchent pas forcément des gens qui sont mobiles. Et voilà, de toutes les études sur le sujet et le problème de recrutement qui, encore aujourd'hui, reste très local finalement. Il y a des études aussi sur le sujet des organisations, etc., qui démontrent que pas forcément, on ne recrute pas forcément quelqu'un qui est. Enfin, dans tous les secteurs ou dans toutes les entreprises qui a été très mobile. Donc, en fait, la différence entre ces politiques et la réalité de la mobilité, de la réalité de l'insertion professionnelle des diplômés en Europe.
Tu veux ajouter quelque chose?
Très bon, si tu le veux.
Oui, pour l'autonomie, on doit avoir un cadre législatif national qui permette cette activité. Ce n'est pas le cas pour pas mal de pays. Donc, du coup, on a des pays qui peuvent utiliser ce dispositif-là au niveau d'Europe et d'autres pays qui n'ont pas cette possibilité parce qu'il n'y a pas le cadre législatif nécessaire. Déjà, voilà un problème qui est au niveau national. Oui, bien sûr, pour les emprunts d'étudiants, et bien sûr, on a des pays qui ont fabriqué, comme les États-Unis ou l'Angleterre ou l'Australie, qui ont fabriqué une nouvelle génération de diplômés sur un BT qui n'arrive pas à rembourser. L'apprend qui ont pris pour faire des études. Et on a des revendications. Moi, je sais qu'en Angleterre, ils sont en train de réviser les politiques des frais d'inscription, mais ça passe parce qu'en fait, c'est l'Hollande. Les Pays-Bas qui fait la concurrence parce que comme il a des frais d'inscription moins bas, il y a de plus en plus d'étudiants étrangers qui vont en Hollande qu'en Angleterre. Et en Hollande encore, il y a un mouvement d'étudiants qui revendique la baisse des frais d'inscription. Donc on est dans une dynamique. Quant à la mobilité, oui, il y a tout cela. Mais comme c'est un point clé pour la construction de l'espace européen, bien sûr, c'est une priorité des politiques européennes. À partir de là, comment ça se fait et si c'est si ça se fait d'une manière elle est aussi qui passe, et ça c'est autre, une autre question. Vous avez raison.
On va s'arrêter là. Il y a d'autres questions dans les interventions.
Justement, pour, par rapport à la garantie des prêts aux universités, les grandes questions, vous êtes impliqué la banque de France, la banque de l'Université, la banque publique d'investissement.
Après, il nous reste 2 minutes, juste une remarque.
Une remarque, c'est qu'en sociologie des migrations, ça fait longtemps quand même que l'État est relativisé comme cadre absolu d'agrégation des données et de détermination des processus. Et c'est-à-dire que c'est une certaine sociologie qui s'est cramponnée à l'État comme cadre explicatif quasi unique, mais dans d'autres dimensions de la sociologie, on critique ce fait-là.
En fait, vous avez raison, parce qu'en sociologie de l'éducation, quand on disait éducation, en principe, c'était l'éducation du système national.
Mais maintenant, bon, voilà, maintenant, c'est la société, voilà. Comme dit l'autre. Et c'est très important d'y parvenir, de penser comme ça l'articulation des différentes échelles de processus.
Merci, Jean.
Merci à vous.